Bonjour. Ce que je dois dire ce lundi matin paraîtra à certains comme une répétition de ce que je pouvais exprimer auparavant. Eh bien non. La situation est très grave. La situation est extrêmement dangereuse, comme je l'ai souvent dit ces dernières semaines, mais aujourd'hui c'est différent. Nous sommes très proches du point de non-retour. Ceux qui connaissent les textes classiques savent bien que ce point de non-retour est associé à l'histoire de Don Juan lorsqu'il rencontre la statue du commandeur. Donc nous sommes très près de ce point. Et le dernier à l'avoir souligné est le général Cujat, qui a été l'ancien chef d'état-major des armées allemandes, de l'armée allemande, et président du commandement intégré de l'OTAN, qui a dit que nous étions très proches d'une barbarie et d'une guerre mondiale. Alors, par rapport à cela, évidemment, la pire chose serait de paniquer stupidement ou de bloquer et de se réfugier dans des illusions. La meilleure, c'est de penser que la solution est la paix, comme l'a défend d'abord le pape Léon XIV, et que cette paix ne peut être fondée que sur une nouvelle architecture internationale de développement et de sécurité mutuelle. Mais, vu de manière concrète, quelque chose qui arrête, qui met un terme à cette dévastation du monde que va produire la situation actuelle. Plus d'essence, qui est fondamentale encore pour l'économie, et les réserves stratégiques des différents pays sont proches de l'épuisement. Plus d'engrais, qui est nécessaire à l'agriculture. Plus d'aluminium, tout cela venant évidemment du Golfe. Mais la cause n'est pas là. La cause, mieux vue, par certains, même dans notre propre pays. Par exemple, je lis un texte de l'Agora Vox, « Les marchés sont proches de la désintégration totale, les marchés financiers. » Donc ce sont bien ces marchés financiers qui causent la situation actuelle et qui causent la situation de guerre. Alors, par rapport à cela, pensons qu'il faut changer de manière de penser, bien sûr. Développement mutuel, système gagnant-gagnant, mais aussi par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de la France. Je rappelle que le préambule de notre Constitution dit que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Eh bien, c'est la même chose au niveau international. Et les deux se rejoignent. Et je pense, aujourd'hui, à tous ceux qui tombent dans un gauchisme de facilité, qui font de très belles propositions, mais qui ne voient pas que pour que ces propositions puissent marcher, il faut d'abord faire passer la question de la paix, ensuite celle du développement. Et pour le développement, il faut les nouvelles formes d'énergie du futur, en particulier l'énergie nucléaire. Et vous savez que ma grande critique vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est opposé au nucléaire, bien que sur certains points, il affirme, notamment en politique internationale, des choses qui sont justes. Alors, de l'autre côté, on voit des analyses, et j'ai lu une analyse intéressante de Michel Onfray dans le Daily News sur la situation actuelle de la France. Mais ces gens-là n'ont aucun sens que l'humanité est une. Leur souverainisme, c'est un souverainisme contre, ce n'est pas un souverainisme pour le développement mutuel. Et de ce point de vue-là, ils ne changent pas de manière de penser, même s'ils peuvent dire des choses qui sont dans l'analyse intéressantes, mais il n'y a pas de manière de penser politique pour un avenir. Le grand avantage de la pensée de Léon XIV, c'est lorsqu'il parle de Nicolas de Cuse. Il n'en fait pas un élément d'analyse, de doctrine, de connaissance de quelque chose. Il en fait un élément de politique pour aujourd'hui. Et cette coïncidence des opposés qui propose ce changement de manière de penser, c'est pour aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ne se sont pas mis cela dans la tête, et que c'est le moment, parce que le moment est grave, le moment de l'histoire est extrêmement grave. Je voulais vous dire cela surtout aujourd'hui, à un moment où on voit parfois des gens courageux qui disent le vrai. Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, vient de dire que sans libérer Barghouti, Marwan Barghouti, il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient. Et reconnaît que Barghouti est torturé par les fascistes d'Israël, Ben-Gvir, Smotrich, Netanyahou, et les forces de police. Il est torturé, on lui donne de l'alimentation frelatée, et c'est un Israélien qui le dit, et je pense que ce courage doit être salué. Maintenant, la situation est très dangereuse sur les deux fronts. Un jour, c'est le front de l'Iran, un jour, c'est le front d'Israël, mais ça forme un tout. Et sur le front de l'Iran, on voit les Américains pleinement dans leurs illusions. Le mémorandum en 14 points, le protocole d'accord en 14 points, trahi constamment. L'Iran bombardé. Et les plans sur le contrôle de l'île de Karg, le contrôle de Bandar Abbas, du port de Bandar Abbas. Et la réalité, c'est qu'il y a une réaction de l'Iran en ce qui concerne l'affrontement des Américains. Ils contrôlent Hormuz. Hein. Et maintenant, les Houthis, qui contrôlent Bab el-Mandeb, c'est-à-dire la mer Rouge. Donc on est dans une situation très grave. Et on bombarde là-bas, évidemment, les objectifs civils et même ceux qui permettent d'avoir de l'eau. On bombarde des deux côtés. Les États-Unis ont bombardé un site de dessalement de l'eau de mer, c'est dont on vit là-bas. Les Iraniens ont bombardé un site de dessalement de l'eau de mer au Koweït. Bref, la guerre est devenue une guerre contre des civils. Et cela s'appelle la barbarie. Il n'y a pas d'autre nom. Et évidemment, les États-Unis et Trump sont en cela ceux qui sont le plus près de cette folie, puisque Trump a dit un jour qu'il veut effacer l'Iran de la carte. Un autre jour, il dit qu'on cherche à l'assassiner. C'est les Israéliens qui lui ont dit pour le provoquer, qu'on cherche à l'assassiner. Et que dans ce cas, il a 1000 missiles prêts pour effacer, il l'a répété, Iran de la carte. C'est de la folie. Et on a l'impression que, mentalement, Trump est une sorte de marionnette des Peter Thiel, des Alex Karp, des gens de Palantir. Et ce qui est intéressant, c'est que Maria Sakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, l'a dit. Elle a dit que c'était la loi de Palantir, de Peter Thiel, d'Alex Karp. Alors je ne sais pas si nos travaux sont arrivés jusque-là, mais sur cela, elle a un point déterminant, c'est-à-dire le danger que des moyens d'intelligence artificielle, comme ils ont été utilisés en Iran ou à Gaza, soient mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un être de raison pour contrôler les choses. Et de ce point de vue-là, le général Cujat a raison, on est au seuil de l'utilisation d'une bombe nucléaire, peut-être d'abord une bombe dite de terrain, mais il n'est pas de bombe de terrain dans le nucléaire, il n'est pas de bombe de cette nature. Une fois qu'on franchit le seuil, eh bien, il sera extrêmement difficile de s'arrêter. Et c'est là le danger pour nous tous, et le danger que l'on voit en France, puisque la France et l'Allemagne se sont réunies, on se réconcilie. Mais pour avoir une politique commune, le nucléaire assurera la protection de la France et de l'Allemagne. Certes, Macron dit que la France gardera le contrôle, mais ce sera un contrôle vis-à-vis de la France et de l'Allemagne. À un moment où les Allemands achètent pour 1,2 milliard des missiles Tomahawk pour aller en profondeur et permettre aux Ukrainiens d'aller en profondeur au sein des installations russes, et où en France, Macron à l'île longue a parlé de cette dissuasion avancée dans toutes les armes, disons, de terrain. Donc, il y a un immense danger. Il faut le mesurer. Alors, j'ajouterai que, en ce sens, que il y a un changement positif. Et ce changement positif, c'est aux États-Unis. Évidemment, il y a les déclarations chinoises pour une nouvelle architecture de développement mutuel, pour les nouvelles routes de la soie, pour les 4 initiatives du président Xi Jinping. Mais maintenant, des choses intéressantes se passent aux États-Unis, où un dernier sondage révèle que 51% des Américains pensent que le capitalisme est une mauvaise solution. C'est entièrement nouveau. Ce n'est pas seulement l'élection de Mandani à New York, mais c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, Mandani vient de faire un excellent discours dont je parlais la semaine dernière. D'autre part, aux États-Unis, de plus en plus d'élus s'insurgent contre l'association des États-Unis à Israël. On sait que, d'une part, Thomas Massie, qui est un républicain, et Roko Hanna, qui est un démocrate, se sont associés pour qu'on arrête la fourniture d'armes et de moyens de guerre à Israël. Il y a eu quand même 103 voix à la Chambre des représentants. C'est beaucoup, c'est la première fois où des Américains élus se prononcent contre une politique d'aide à Israël. Au Sénat, c'est en discussion. Puis il y a les initiatives, les amendements 219 à la Chambre des représentants et 1217 au Sénat, qui visent à intégrer les forces israéliennes et américaines. Et là aussi, on s'insurge. Donc toutes ces choses-là se passent. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, on se trouve un peu dans ce que j'appellerais la vallée des paumés. Vous savez ce qu'on disait en Allemagne de l'Est. On disait en Allemagne de l'Est qu'on n'avait pas de nouvelles, que c'était impossible d'avoir ces nouvelles. Je dois dire qu'aujourd'hui, un ami qui était en Russie a vu aussi des Russes protester parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles, ils n'avaient pas accès à Internet. En France, on a accès peut-être à Internet encore aujourd'hui, bien qu'on puisse, ou on cherche à nous en priver avec différents prétextes. Nous en priver en partie, réserver à une élite, les choses qui comptent, etc. Typique de la manœuvre d'un pays qui a une caste. Mais la chose importante, c'est que la presse, les médias, sont entièrement contrôlés. On peut mentionner les Bolloré, les Pigas, on peut mentionner ce qu'on veut, mais c'est beaucoup plus large. La presse est entièrement contrôlée, les médias, et ils véhiculent une même manière de penser, qui est la pensée du narratif militaire, technocratique, technique et financier. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est pour fonder l'opposition à cela. C'est mon livre aussi, Répondre aux cris du peuple. Parce qu'aujourd'hui, toute la politique dans les pays occidentaux, ce n'est pas parce qu'ils sont occidentaux, c'est parce qu'ils sont des dirigeants qui sont des dirigeants qui sont corrompus par la finance et qui veulent la guerre. Eh bien, ces dirigeants sont en danger public. D'où la nécessité de se mobiliser, et de se mobiliser pour cette paix par le développement mutuel, comme l'a fait le pape dans une réunion qu'il vient de tenir à Castel Gandolfo, auprès de l'endroit où il réside, une déclaration de Rome, pour le contrôle de l'intelligence artificielle et pour renoncer aux armes nucléaires. Je pense que c'est très important de voir les choses en perspective de cette façon, pour sortir de la vallée paumée, se mobiliser, parce qu'il est temps, c'est le moment dans l'histoire où le risque de franchir le point de non-retour est là, et où chacun doit, dans son intime conviction, comme on dit en justice, l'éprouver, se mobiliser. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.